Philippe, 26 avril 83, Rimont.
Vous n'êtes pas trop mort après 2 heures sur Hegel, après... d'autres. Donc, nous allons continuer à réfléchir sur le problème de la vertu. C'est important de saisir le pourquoi de la vertu, la naissance de la vertu et ce qu'est la vertu et leur diversité. C'est un peu tout ça qu'il faut essayer de voir. Donc le pourquoi de la vertu, nous l'avons vu, il y a 2 raisons, si vous voulez. Il y a une première raison au point de vue purement philosophique, c'est que nous constatons dans notre vie que si nous ne faisons pas un effort constant de montée, d'application, très très vite, l'imaginaire s'empare de notre vie. Nous sommes dans une détente imaginative. Nous descendons le fleuve. C'est ça, descendre le fleuve. Se laisser aller. L'imagination, c'est ça. Alors, on plane. C'est pas très bien où on va. On rêvasse. Et le dilettantisme, l'aboulisme, tout ça qui vient immédiatement, mais ça vient très vite. Ça vient très vite, faut pas. Même ceux qui ont reçu une certaine éducation chrétienne, une éducation vertueuse, s'ils ne sont pas tout le temps à lutter, très vite l'imaginaire reprend tout. C'est un petit peu comme une terre, vous voyez, une terre qui n'est pas labourée, qui est laissée un petit peu inculte. Très très vite, les mauvaises herbes reviennent. C'est extrêmement rapide. Bon, on peut constater que de fait, dans notre vie, c'est comme ça. Si on ne fait pas attention à un effort constant, d'aller toujours plus loin, hein, parce que cet effort consiste à monter, à aller toujours plus, et que pour une raison ou pour une autre, qui peuvent être très légitimes, on est fatigué, de l'effort, ou on rencontre telle ou telle raison qui nous arrête un peu, alors on se détend, on dit « Ah, j'ai besoin de détente, absolument ». Ça ne condamne pas la détente, ce que je dis. Hein. Quand vous faites la détente par obéissance, très bien. C'est une obéissance qui consiste à descendre le fleuve avec, par obéissance. Et on descend le fleuve en s'arrêtant à tous les ports pour que ça n'aille pas trop vite. Alors on descend le fleuve, on est bien obligé. Ça peut très bien se faire, ça. Mais autrement, on voit très vite que l'imaginaire prend très très vite le plan. Le dessus. Alors, nous pouvons dire, nous, en plus, au point de vue croyant, comme chrétien, que les conséquences du péché originel sont toujours présentes. Et les conséquences du péché originel nous font tendre vers le sensible plus immédiat. Que pour nous, le sensible prend une force énorme, plus grande qu'elle serait naturellement. À cause des conséquences du péché, il y a donc ce poids, cette pente vers le bien sensible immédiat. Et on se laisse attirer par cela, on se laisse prendre par ce sensible immédiat, et alors on n'est plus ce qu'on doit être. On pourrait dire la même chose, c'est que, au point de vue imaginatif, on sait très bien qu'il y a une pente très grande à vouloir qu'on s'occupe de nous. On se laisse un peu flatter, on s'occupe de nous. Et la grosse vanité, hein, la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, c'est quand même quelque chose, on sait très bien. Et puis il y a l'orgueil. Les conséquences du péché, elles sont présentes en chacun d'entre nous. Hein. Et parce qu'elles sont là présentes, elles exigent de lutter tout le temps. C'est pas commode, hein. La vie est un service militaire. Hein. Quand Job disait ça, il savait ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, on ne ferait peut-être pas dire ça, parce que le service militaire, hein, et il n'est plus tout à fait ce qu'il était avant. Alors, ce serait assez facile, on dirait. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas grand-chose. Voilà ce que ça voulait dire. Alors, la vie est un service militaire, pas grand-chose. Donc, comprenons ce que ça veut dire au point de vue de l'esprit. Ça veut dire qu'on doit lutter constamment. On doit lutter pour que, de fait, notre intelligence pratique arrive à s'emparer de tout ce domaine imaginatif, que notre intelligence pratique vienne transformer cet imaginaire pour permettre que notre volonté puisse s'exercer, pour que notre concupiscible et notre irascible puissent être dominés. Alors, la vertu sera, à partir de cet exercice, cette attention d'intelligence pratique, pour éclairer l'imaginaire, la vertu sera ces plis qui progressivement viendront s'emparer de notre volonté, de nos appétits sensibles, le concupiscible et l'irascible, et un pli à l'intérieur même de l'intelligence. Acquérir non pas seulement des habitudes, parce que ça, tout le monde comprendrait, vous essayez que l'animal acquiert des habitudes. Des habitudes de propreté, des habitudes qui soient agréables au style de chacun. Le dressage n'a pas comme but d'acquérir des vertus, d'acquérir des habitus. Le dressage n'a pas d'autre but que d'acquérir certains plis qui sont comme des habitudes, des associations dans le conditionnement qui font que certains gestes en appellent d'autres et d'autres en appellent d'autres et ainsi de suite. Alors, c'est des habitudes. Un animal est capable, par un dressage, d'acquérir des habitudes. Un petit enfant, un homme, c'est pour nous, nous sommes capables d'acquérir des vertus. Ce n'est pas la même chose, les habitudes et les vertus. Alors, il s'agit de bien saisir qu'est-ce que c'est que la vertu? Qu'est-ce que ça représente, cette acquisition des vertus? À la différence de l'habitude, à la différence des méthodes. Les méthodes, c'est très très bien, ça nous fait acquérir des habitudes. Je suis habitué à faire ça. Je fais ça parfaitement, je le fais de mieux en mieux, de plus en plus vite. J'acquiers des habitudes. Quelquefois, ça semble très très proche de l'habitus. Très très proche de la vertu, mais ce n'est pas la même chose. Alors il faut bien comprendre la différence entre l'acquisition des habitudes et l'acquisition des vertus. La vertu, c'est de l'intérieur qu'elle s'acquiert. C'est à partir d'un exercice humain, de nos diverses activités, de nos activités intellectuelles, de nos activités volontaires, qui fait que de l'intérieur, progressivement, il y a une détermination qui se prend, une certaine orientation qui s'acquiert, et qui fait que nos activités, alors, deviennent beaucoup plus fascine, même joyeuse, quand on est habitué à faire quelque chose et que cette habitude vient de l'intérieur, vous voyez, ce n'est pas une habitude qui vient de l'extérieur, mais que c'est de l'intérieur qu'on est orienté et qu'on est orienté à opérer des actes qui sont proprement humains. Il y a une certaine joie. Une certaine joie. On est heureux de faire ça. Parce qu'il y a une souplesse, vous voyez. La vertu donne une souplesse nouvelle. C'est très curieux. C'est de l'intérieur qu'on acquiert ce que les Grecs appellent exis. Très difficile à traduire, un état. Mais un état, comprenons bien, c'est pas un état de fixité. C'est un pli, c'est une détermination, une orientation qui fait que on réalise ce qu'on doit réaliser avec beaucoup plus de facilité. On le réalise beaucoup plus rapidement, on le réalise mieux, et on le réalise avec de la joie. Cet exis va s'enraciner en premier lieu dans notre intelligence pratique. Pour essayer de permettre à notre intelligence pratique de réaliser ce qu'elle doit réaliser d'une manière la plus efficace qui soit, la plus vraie qui soit. Et je dis bien dans notre intelligence pratique, c'est-à-dire une intelligence qui est déterminée par l'amour du bien, qui est déterminée par une intention de vie qui me conduit vers ma fin. L'intelligence pratique est au service de l'intention. Elle est au service de l'amour pour permettre à l'intelligence d'être au service de ce que représente l'acquisition de ma fin. L'intelligence pratique présuppose donc l'amour et présuppose donc l'orientation vers la fin. Et l'intelligence pratique met une certaine lumière, une certaine connaissance à l'égard de tous les moyens qui me sont nécessaires pour acquérir cette fin. L'intelligence pratique met un ordre dans ces moyens. L'intelligence pratique, elle les connaît et elle met un ordre dans ses moyens. Et elle fait que tout est comme mobilisé vers la fin. C'est ça que fait l'intelligence pratique. À certains moments, nous savons très bien, quand nous pouvons réfléchir suffisamment sur ce que nous devons faire, et que nous réfléchissons sur les différents moyens qui sont bons pour nous d'être faits, nous savons très bien ce que ça représente. Nous l'avons vu à propos de l'analyse même de l'amour d'amitié. Comment il était normal de réfléchir, de s'informer, de demander conseil à l'égard de tous les moyens nécessaires et bons pour acquérir cette amitié. Et c'est ça, en premier lieu, cette réflexion de l'intellect, de l'intelligence pratique. On délibère intérieurement, on réfléchit sur ce qu'on doit faire. Et on peut, alors à ce moment-là, ordonner tous les moyens qui nous ont été conseillés, ou les moyens que nous avons découverts, on ordonne tout cela. On voit qu'il y a diverses manières de réaliser cette amitié, il y a diverses manières d'atteindre cette fin. Et c'est bon de voir cette diversité, parce que ça assouplit. On ne fonce pas. L'intelligence pratique demande cela, que tout soit fait dans une lumière de l'intelligence, que ce ne soit pas fait instinctivement, qu'il y ait diverses manières de le faire, il n'y a pas qu'une seule. C'est toute la différence avec l'art. Hein. Ce qu'on disait l'autre jour à propos de la connaissance artistique, comment de l'inspiration je passe au choix créateur, et ceci se fait au moment où un moyen s'impose à moi nécessairement. Pour un artiste, les voies sont toujours déterminées. Et il n'y a qu'une seule manière de faire les choses. Ça, c'est le propre de l'artiste. Il n'y a qu'une seule manière. Il passe des possibles au nécessaire, sans demander conseil, directement. Pas de moyen, ça s'impose de l'intérieur. L'homme prudent, au point de vue de l'agir, c'est tout à fait différent. C'est l'intelligence pratique qui doit progressivement prendre possession de tout l'imaginaire, qui peut être un imaginaire artistique, hein, prendre possession de tout cet imaginaire pour que, de fait, on comprenne les diverses manières de faire la chose. Et comme nous avons de la peine de rester toujours suffisamment en acte vis-à-vis de cet intellect pratique, vis-à-vis de cette intelligence pratique, nous risquons, dès que nous arrêtons notre attention, que immédiatement l'imaginaire s'empare de nous. Nous nous laissons emporter. D'où la nécessité de faire des actes positifs d'application, d'attention. Je sais que je suis étourdi. C'est arrivé. Hein. Je suis étourdi parce que je suis un peu artiste, je suis un peu rêveur. Ah, faites attention, soyez quand même un peu appliqué. Alors on s'applique. Et puis une fois, deux fois, on a complètement oublié ce qu'on nous avait demandé. Mais complètement oublié. On a rêvassé. Alors on lui dit, faites attention. Il ne faut pas que ça revienne une troisième fois. Vous voyez tous les dégâts. Parce que ça peut arriver, il peut y avoir des dégâts énormes. On a manqué de prudence, tout simplement. On a oublié ce qu'on avait à faire. Si on sait qu'on est très distrait, mais mettons un grand papier dans sa chambre, à telle heure je dois faire cette chose-là, et puis ça y est, on le fait, et on met ça sur sa chaise, pour quand on va s'asseoir dessus, on sera obligé de regarder ça avec attention. Alors c'est un rappel, vous voyez, le vieux, faire un petit nœud à son mouchoir, hein, c'était des choses comme ça, alors c'est peut-être pas toujours ça plus efficace, mais on doit découvrir des petits moyens qui nous rappellent être attentif à ce qu'on doit faire. C'est que l'intelligence pratique doit illuminer notre imaginaire. Parce que si on ne fait pas grande attention, notre imaginaire va l'emporter. Et on ira de distraction en distraction. On sera pris par de plus en plus l'aspect passionnel qui nous guidera. Nous ne serons pris par nos plis de détermination absolue. Et ça deviendra impossible. Il faut comprendre cela, que nous avons besoin de cette application qui se répète pour acquérir progressivement ce qu'on appelle la vertu de prudence. Vous avez tous la vertu de prudence, j'en suis sûr, à l'état embryonnaire. Hein, vous l'avez tous la vertu de prudence. Vous avez tous la vertu de prudence et vous avez tous la vertu infuse de prudence au point de vue chrétien. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette vertu de prudence. C'est très beau du reste. Et à partir de la vertu de prudence, comprendre la nécessité de la vertu de justice, de la vertu de force, de la vertu de tempérance. Comment, à partir de la vertu de prudence, doit naître ces autres vertus. Et que la vertu de prudence, parce que la vertu de prudence s'enracine dans notre intelligence pratique, il faut arriver à faire que notre concupiscible, qui est toujours le lieu de toutes les fièvres paludiennes, si on ne fait pas grande attention, si vous laissez votre concupiscible se développer, eh bien vous êtes sûr que des quantités de microbes vont se développer qui vous piqueront d'une manière ou d'une autre et vous serez pris par les fièvres paludiennes. C'est-à-dire que vous serez dans l'incapacité de faire quelque chose. Parce que vous serez beaucoup trop pris par votre concupiscible. Et l'imaginaire entretiendra votre concupiscible d'une manière telle que vous serez incapable. Vous serez dans une distraction permanente. Vous penserez au chocolat que vous aimez. Je prends le chocolat symboliquement. Je penserai au chocolat que vous aimez et que vous n'avez pas pu manger au bon moment parce qu'un autre est passé juste à ce moment-là et l'a pris. Et vous ne pouviez pas, évidemment, précipiter trop vite. Ça, c'est le concupiscible. Le concupiscible prend des formes multiples et diverses. L'irascible, c'est la même chose. C'est aussi des fièvres paludiennes. Hein. Ça. Terrible, l'irascible, quand il est terriblement développé. Alors on est de mauvaise humeur, parce qu'on n'a pas eu le chocolat. On est de mauvaise humeur, parce que c'était dur, un peu pénible, on nous a pas compris. On n'a pas eu le sourire qu'on désirait. Parce que on est passé un peu trop rapidement, ou bien l'autre est passé trop rapidement. Et pourtant, c'était si simple. Alors, on n'est pas content, on est triste, on est replié sur soi. Mais tout notre psychisme, hein, du concupiscible et de l'irascible, demande d'être éduqué. Il faut le connaître, il demande d'être éduqué. Et il est éduqué par la prudence. C'est la prudence qui nous permet cette auto-éducation de notre psychisme. Quand on était tout gosse, c'était notre mère qui avait la prudence pour nous. Et de temps en temps, notre père. Quand ça n'allait plus. Et qu'il fallait des cas importants. Alors à ce moment-là, c'était la voix du père qui arrivait pour augmenter la force de la lumière de l'intelligence pratique de notre mère. C'est vrai, un gosse, ça s'est dû comme ça. Regardez. Très très joli à voir ça. Voir le concupiscible chez les tout petits enfants, pas très grand, hein, 1 an, 2 ans. On voit très bien qu'ils sont pris par ça, c'est normal, parce qu'on se rappelle moins, nous. Hein. Première fois, vous avez chippé un sucre, ou un chocolat, ou de la confiture, hein, en la mettant au bon endroit pour que les réserves vous soient réservées, devant, et de cette manière-là. Alors, on sait très bien, on ne se rappelle plus. Mais regardez chez les enfants maintenant. Là. C'est très beau. Et la mère est là pour arrêter ça, pour arrêter ces petits gestes de concupiscence. Si ça se répétait, ben oui, il n'y aurait pas d'acquisition de la vertu de tempérance. Alors, on doit acquérir la vertu de tempérance. On doit acquérir la vertu de force. On doit acquérir la vertu de justice. Alors, comprenons bien l'acquisition de ces vertus à partir de l'intelligence pratique qui ordonne les moyens vers la fin. Tout est là. Et l'acquisition des vertus, c'est pour permettre d'être plus intelligent. Dites-vous bien ça, hein. C'est pour permettre d'être plus intelligent. Si vous êtes vertueux, vous serez plus intelligent et plus souple dans votre intelligence, moins tyrannique. Vous serez plus souple. Le point de vue imaginatif, le point de vue artistique qui peut être en vous, sera dépassé par quelque chose qui est beaucoup plus souple, qui est l'intelligence pratique, qui qui viendra éclairer les différents moyens que nous avons sous la main pour les mettre vis-à-vis de notre fin. La vertu de prudence, donc, c'est la clé des vertus cardinales. Ce qui nous montre bien que acquérir les vertus, c'est devenir plus intelligent. C'est très important de comprendre ça. On n'a pas un goût ordinaire de la vertu comme ça. Je vous aurais demandé, est-ce que la vertu vous rend plus intelligent? Vous auriez dit non. Est-ce que les gens que vous voyez qui sont vertueux sont plus intelligents? Vous auriez dit, c'est rare. Parce qu'au fond, vous voyez très souvent des caricatures de la vertu, où vous avez une image caricaturale de la vertu. Mais vous ne voyez pas ce que c'est que la vraie vertu. Et c'est là où la philosophie doit purifier ce regard pour nous faire comprendre ce que c'est que la vraie vertu. La vraie vertu vient amplifier mon intelligence pratique pour lui permettre d'aller plus loin, pour lui permettre d'aller dans un domaine où la plupart du temps elle ne va pas du tout. Et alors, parce qu'on ne va jamais dans ce domaine-là, on abandonne tout ce domaine-là à l'imaginaire. Donc, aux moustiques de fièvre paludienne, on abandonne ces secteurs-là. Ça devient de la brousse, ça devient des forêts vierges. On ne peut plus passer. C'est important de saisir comment la vertu de prudence va permettre à l'intelligence pratique d'être plus intelligence pratique. La vertu, parce qu'elle est acquise de l'intérieur et non pas de l'extérieur, c'est la différence avec la méthode. La vertu, parce qu'elle est acquise de l'intérieur, au sens profond, la vertu me rend plus intelligent. Elle me donne une acuité plus grande dans l'ordre de l'intelligence. Il me donne une facilité, une docilité, une souplesse plus grande. Parce que l'intelligence est toujours souple. L'intelligence ne se cabre jamais devant quelque chose qui n'est pas selon le projet que nous avions. Jamais. L'intelligence a un peu de recul. Et elle prend ce recul. Et elle sait prendre ce recul. Et elle doit prendre ce recul en tant qu'intelligence. Parce qu'elle est toujours prête à tout reprendre immédiatement. S'il y a telle ou telle chose qui ne marche pas, eh bien tant pis, ça n'a pas d'importance. On fera autre chose. Mais on n'abandonne pas sa fin. Et on sait qu'on ne doit pas l'abandonner. Alors, qu'il y ait des fausses vertus, c'est bien évident. Il y a des vertus qui sont comme des vernis. Vous voyez, on a acquis une certaine habitude, une certaine dextérité, là, c'est comme un vernis. Mais un vernis, qui est un mauvais vernis, alors qu'il devient très vite noir. C'est pour ça que la vertu n'est pas toujours agréable. Parce que ça devient comme... Il y a des gens qui ont avalé des parapluies, et qui sont des loups ambulantes. Alors, il faut une confusion entre la vertu et les voies déterminées de l'art. Alors que justement la prudence, elle réalise toujours sa propre voie. Elle est capable de la réaliser elle-même, à cause de la souplesse de l'intelligence. Alors, essayons de saisir ce que doit être cette vertu de prudence. Elle vient ennoblir mon intelligence pratique et permettre à mon intelligence pratique d'acquérir une plus grande souplesse, d'acquérir une plus grande netteté, pas rester dans le flou, d'acquérir aussi une capacité plus grande de mobiliser ma force pour exécuter ce que je dois exécuter. C'est vraiment à l'intérieur de l'intelligence pratique. Alors voyez, la prudence va augmenter mon amour de ma fin. Un homme prudent, c'est celui qui aime avant tout le bien, qui est son bien et sa femme. Mais il sait très bien qu'il faut des moyens pour acquérir ça. Et ces moyens, il les cherche, et quand il les a trouvés et qu'il les a choisis, il les aime. Il les aime à cause de la fin, pas pour eux-mêmes. Aimer la vertu pour la vertu, c'est contraire à la vertu. Celui qui veut être vertueux pour être vertueux, c'est contraire à la vertu. C'est une mauvaise vertu. Et c'est ça qui rend odieux la vertu de temps en temps. Il y a des gens qui sont vertueux pour être vertueux. Et être vertueux pour être vertueux, ça tue la vertu. Et c'est quelque chose qui est très mauvais. C'est un vernis noir. Oui. Et qui ne vous rend pas du tout plus intelligent. C'est quelque chose de tout à fait à côté. La vertu est aimée en fonction de la fin que je recherche. Et uniquement en fonction de la fin que je recherche. Comprenons que cette vertu de prudence s'acquiert progressivement. Hein. Ça met du temps à devenir prudent. Ça met du temps, le vieux philosophe. Considérer que la prudence est une sagesse pratique et donc qu'elle s'acquiert qu'à partir de 40 ans. C'est pas étonnant que ne soyez pas prudent. C'est pas étonnant, mais vous devez en avoir un amour et un désir pour l'acquérir. Je crois que dans l'ère chrétienne, ça va un peu plus vite. Ça va un peu plus vite, je crois. Je crois qu'on peut dire que grâce à la prudence infuse, on acquiert vite la prudence. La petite Thérèse avait une vraie prudence, infuse et acquise. Et au fond, vous devez avoir une certaine prudence. Vous avez une prudence infuse, elle vous est donnée par la grâce. Et une prudence acquise qui permet à la prudence infuse de pouvoir se réaliser plus pleinement. Alors je crois qu'on peut préciser, pour mieux comprendre ce que c'est que la vertu de prudence, la vertu de prudence va permettre en premier lieu de rectifier le conseil. Je crois que c'est là où on saisit en premier lieu la vertu de prudence. Elle nous fait rectifier notre propre conseil. Quand nous réfléchissons sur les moyens que nous devons prendre, nous savons regarder les moyens qui sont les meilleurs en vue de l'acquisition de la fin. Même si ces moyens sont un petit peu plus durs, un peu plus difficiles, on choisit normalement. Quand on est un homme prudent, on choisit les meilleurs moyens. On a un regard net sur les moyens qu'on doit prendre. La passion n'intervient plus. La petite cote d'amour, hein, qui vient là pour qu'on choisisse ce qui est le plus proche de nous, le plus délectable, et puis on cache ça bien, merveilleusement. Mais l'homme prudent saura que lorsqu'il y a une difficulté trop grande ou une trop grande fatigue, eh oui, il ne faut pas tendre de trop l'arc. C'est l'homme prudent qui fait ça. Alors on choisira un moyen plus facile. Mais ce ne sera pas le moyen numéro un. Et dès que ça ira mieux, on saura prendre un moyen qui nous met plus proche de notre fin. Ça, c'est l'homme prudent, mais il ne tombe pas tout de suite dans les ornières. L'homme qui n'a pas prudent, il a découvert une piste merveilleuse. Ah, j'ai découvert ça, c'est merveilleux. Puis là, ça y est. Il ne s'aperçoit pas que ce moyen, à la place d'être vraiment en connaturalité avec sa fin, ce moyen tout simplement en connaturalité avec son concupiscible, tout simplement. Alors, on n'osera pas le dire, mais c'est ça. C'est le moyen le plus délectable. C'est le moyen que j'aime le mieux. C'est le moyen qui m'est le plus proche. C'est mon moyen. Ah oui, mais attention, est-ce que c'est celui-là qui est le plus proche de la fin? C'est pas parce que vous l'avez choisi hier que vous devez le rechoisir encore aujourd'hui. et que vous devez encore le choisir demain. Voyez les voies déterminées. L'artiste en nous, il reprend très vite ça. Ah, j'ai découvert, ça y est. Oui, dans l'ordre du fat chéré très bien, mais pas dans l'ordre de l'agir. Il faut comprendre que dans l'ordre de l'agir, on doit toujours tendre vers quelque chose de plus parfait. Vers quelque chose de plus grand. Et donc, on ne peut jamais s'arrêter à un choix déterminé. Je crois que la vertu de prudence, voyez, vient assouplir les moyens pour leur faire comprendre ce qu'ils ont de positif, ce qu'ils ont de négatif. Ça donne l'intelligence des moyens. Et une intelligence des moyens très très forte. On ne s'arrête pas à celui-là. On n'est pas catastrophé parce que dans notre vie, pour une raison ou pour une autre, tel moyen, on ne peut pas l'avoir. On ne pleure pas indéfiniment, vous voyez, sur les murs de Jérusalem. La prudence consiste justement à comprendre, oui, les événements sont autres, on doit faire autre chose. Je prends symboliquement ça, vous comprenez bien, c'est sûr. Il faut comprendre qu'on n'est pas déterminé. Il y a la souplesse, c'est très très important ça. J'insiste exprès parce que je crois que c'est tellement important dans notre vie. C'est ça qui met toute la souplesse dans la vie commune. Si on était tous prudents, la vie commune serait bien plus aérienne. Beaucoup plus. C'est les voies déterminées qui sont quelque chose de beaucoup plus fatigant. Parce que voyez, si tout le monde prenait ces voies déterminées, hein, voyez ce que ça ferait. Hein. Je vous ai déjà donné ce petit exemple hein, de ce père matheux qui était au solchoir, qui était merveilleux sous des quantités d'aspects, mais les voies déterminées de l'art étaient quelque chose de très très fort chez lui, parce qu'il était matheux, alors c'était l'application nette. Il avait calculé exactement le temps qu'il fallait de sa cellule au cœur. La cloche sonnait 5 minutes plus tôt pour que, justement, on puisse tout de suite s'y rendre. Et si on a 3 minutes au cœur avant que commence le fils, tant mieux. C'est 3 minutes de gagné pour l'éternité. Tant mieux. Tandis que lui, toujours dernier, il arrivait à fond de train. Et comme il était petit, c'était d'autant plus cocasse de le voir arriver. Alors un beau jour, je lui dis, comment se fait-il ? Comme je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup, on pouvait se parler comme ça, il était plus âgé que moi, mais je pouvais lui dire, mais comment se fait-il que vous arrivez toujours à la dernière minute ? Alors il m'a dit, mais j'ai calculé exactement l'heure qu'il fallait, il ne faut pas perdre une minute. Il m'a dit, mais si tout le monde faisait ça ? Ah, je n'ai pas pensé. Vous voyez, les voies déterminées de l'art, on est seul. Et nous, on n'est pas seul. La prudence voit que les moyens sont différents quand on est 5, quand on est 15, quand on est 20, quand on est 70. Pas la même chose. Souplesse. Parce qu'il y a des répétitions qui sont fatigantes. Les ornières. On voit très bien, il prend le tournant comme ça, toujours de la même façon, et puis il ne voit pas du tout qu'il y a quelqu'un qui arrive de l'autre côté. Il va fond de train. Les voies déterminées de l'art. Hein. La souplesse de la prudence consiste à rendre tout cela très ordonné à la fin. C'est ça que fait la prudence. La prudence met, c'est l'huile qui descend de la barbe d'Aaron. Hein. C'est la prudence met cette souplesse, cette très grande souplesse. Et alors, c'est l'huile dans notre vie. Donc, au niveau du conseil, un regard très net sur la valeur exacte, objective des conseils. Et on choisit ces conseils suivant qu'on est plus ou moins capable, suivant qu'on a plus ou moins d'ardeur, suivant qu'on a plus ou moins d'amour. On choisit tel ou tel conseil, tel ou tel moyen, parce que on peut le faire. Alors, si un jour on est fatigué, très bien, mais dès le lendemain, on essaiera de reprendre tout de suite, pour que ça ne soit pas une habitude. Vous voyez, on vient vite, vous savez, l'habitude des vieux garçons, hein. C'est pas de l'ordre de la prudence, c'est de l'ordre des voies déterminées de l'art. Tout simplement. Trouver un moyen merveilleux de mettre ses chaussures à tel endroit. Et si jamais, hein, pour une raison ou pour une autre, c'est pas mis à cet endroit-là, catastrophe, le monde croule. Hein. C'est net. La prudence consiste à comprendre, mais non, il y a de la place à côté. C'est bien. Alors, parce qu'il y a de la place à côté, on peut le faire. C'est pas dramatique. C'est pas un drame, cette chose-là. La prudence consiste à comprendre que, oui, il faut que ce soit fait, évidemment. Il faut que ce soit fait. Mais, alors, si on a trouvé qu'il y avait quelque chose de bien meilleur de mettre à tel endroit, très bien, on le fera. Mais on reste souple. Vous voyez, la prudence enveloppe les moyens d'un amour, relié à la fin. Alors ça donne cette souplesse. La prudence joue donc à l'égard de la recherche des moyens. La prudence consiste à donner de bons conseils. Mais en comprenant bien qu'on donne de bons conseils pour aider l'autre. Et on essaie de se mettre le plus possible dans sa situation pour l'aider. La prudence consiste à bien choisir, la prudence consiste à se commander soi-même au bon moment. C'est aussi très important, l'imperium. L'acte principal de la prudence, c'est l'imperium. C'est là aussi, on doit, voyez, bien comprendre ce que c'est que la prudence. Hein. Parce que pour nous, la plupart du temps, un homme prudent, vous savez bien, c'est un homme qui ne s'engage pas trop. Puis on dit, ah moi je suis un homme prudent, j'en ai tellement vu dans ma vie que maintenant, ça y est, j'ai compris. Je plane. Je ne m'engagerai jamais plus. C'est beaucoup trop dangereux. Je sais très bien que ça peut aller des catastrophes, on ne s'engage plus. C'est souverainement imprudent de ne jamais s'engager. Dans la vie commune. C'est souverainement imprudent de ne jamais s'engager. Ça va contre l'acte humain et contre sa finalité. Dans la finalité, on doit s'engager. On doit tendre vers la fin et d'une manière efficace. Et donc l'homme prudent, c'est celui qui sait s'engager. Il sait s'engager au bon moment. Il ne s'engage pas n'importe comment. Il sait qu'il faut attendre quelquefois longuement quand on ne voit plus très clair, quand on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Alors on attend. Un homme prudent s'engage quand, de fait, ayant estimé les moyens qu'il fallait, il sait exactement, et je dis bien, il sait exactement à quel moment il faut agir. Il agit à ce moment-là. Il prie, c'est évident, surtout si les chrétiens. Il prie pour agir vraiment au moment où il le faut. Parce que c'est très important, ça. La vertu d'exécution. La vertu de prudence, voyez, va enlever tout ce qu'il pourrait y avoir de trop imaginatif qui empêcherait de prendre des décisions. Surtout quand on est un peu développé du côté de l'intelligence. Il y a les voies déterminées de l'art, et il y a juste l'inverse. Il y a chez les intellectuels une difficulté énorme de s'engager, parce qu'on voit trop les difficultés. Parce qu'on voit trop la diversité des moyens. Parce qu'on relativise trop les moyens, et qu'on voit la difficulté très grande. Ça, c'est le défaut mignon de tous les intellectuels. Ils hésitent, ils hésitent, ils hésitent, alors jusqu'à un moment donné, ça devient du scrupule.
Parce que l'hésitation peut devenir du scrupule. Et là, à ce moment-là, on réagit, on ne fait plus du tout, on ne décide plus rien du tout. Et on dit, voyez, c'est trop difficile, alors je ne décide pas. Non, c'est un manque de prudence. C'est un manque de prudence. Ne dites pas que c'est trop difficile. Dites jamais que c'est un manque de prudence. Dites que vous manquez à ce moment-là d'avoir une vision suffisamment nette comment les moyens doivent être ordonnés à la fin. Ah, ça n'empêche pas que de temps en temps, l'homme prudent fait qu'on s'arrête, qu'on attend, mais l'homme prudent saura s'engager au bon moment. In tempore opportuno, hein, dans le temps exact qu'il faut. Et c'est le temps opportun. Et alors à ce moment-là, il s'engage. Et il s'engage tout entier. Parce que l'homme prudent réalise l'imperium comme un acte d'intelligence. C'est un acte d'intelligence, c'est le fruit de la prudence. Et l'imperium peut mobiliser tout mon être. C'est tout moi-même qui m'engage. Et je saurai m'engager alors au bon moment, quand il le faudra, et pleinement et totalement. Surtout quand ça en vaut la peine. Quand c'est des choses secondaires, tout à fait secondaires, bon, ça n'a pas... C'est pas terrible. Alors on s'engage. Oui, parce qu'il le faut. Il faut descendre l'escalier. Ben, il faut descendre l'escalier. N'allez pas rester en haut en disant non, c'est l'heure, descendez l'escalier. Quoi. Restez pas quand même à réfléchir en haut en se disant qu'est-ce que je vais faire. Non, il faut descendre l'escalier, c'est bien évident. Alors, vous avez, vous décidez à ce moment-là pour une petite chose comme celle-là. Mais quand il s'agit d'un choix de vie, quand il s'agit d'une orientation, quand il s'agit d'une vocation, quand il s'agit d'une amitié. Ah, oh, c'est important. Alors, l'intellectuel, vous savez très bien, il cérébralise. Mais c'est juste inverse des voies déterminées de l'art. C'est juste inverse. Alors, il cérébralise, c'est-à-dire qu'il réfléchit tellement. Ben oui, qu'il est fatigué le soir. Alors, à ce moment-là, ben oui, ça recommencera le matin. Alors, non, ce soir, je ne peux pas. Vraiment, c'est impossible. Alors, il recommencera le lendemain matin à réfléchir, puis jamais rien ne se fera. Alors, l'intelligence pratique vient lutter contre ça, pas seulement contre l'imaginaire. Oui, contre un imaginaire qui s'empare d'intelligence. Il y a un imaginaire qui artistique, il y a un imaginaire intellectuel. Il y a un imaginaire ordinaire. Et c'est important de comprendre que c'est cet habitus de prudence qui doit aider à aller jusqu'au bout dans ce don de notre intelligence dans l'ordre pratique. Vous voyez comme c'est grand. Et comme ça nous fait adhérer à la réalité. Il y a deux manières d'être réaliste. Il y a la manière du jugement d'existence et il y a la manière de l'impérium. C'est l'intelligence pratique. L'intelligence pratique doit être réaliste. Autrement, on ne réalise jamais rien. Et être réaliste dans ce domaine de l'intelligence pratique, c'est justement de voir exactement le moyen qu'il faut et de l'ordonner et de le choisir et de se jeter à l'eau quand il le faut. C'est l'intelligence qui est le lieu par excellence de tous les habitus. Parce que l'intelligence humaine, au point de départ, est indéterminée et qu'elle a besoin d'acquérir cette détermination. Je ne suis pas assez armé uniquement par mon intelligence. Je dois acquérir ces vertus. Parce qu'il y a une indétermination fondamentale dans l'intelligence. Et cette indétermination est en premier lieu du côté de l'intelligence spéculative, mais elle existe aussi du côté de l'intelligence pratique. On comprend ? Comment ? L'intelligence pratique est perfectionnée, ennoblie par la prudence, et comment immédiatement la prudence va permettre à la vertu de justice de naître. L'homme prudent a besoin d'acquérir les vertus. Et la vertu de justice, comme la vertu de tempérance et la vertu de force. Il en a besoin. Alors comprenons bien, hein, ne faisons pas ce petit schéma en disant « De la vertu de prudence va naître la vertu de justice. » Non. La vertu de justice s'acquiert, comme la vertu de prudence, par des actes divers, par des actes multiples. Je dois poser des actes de justice. Très important de poser des actes de justice. Il faut poser des actes de justice. C'est-à-dire qu'il faut dire maintenant, je dois m'arrêter. Vous voyez, c'est un acte de justice par respect pour vous. C'est ça, un acte de justice. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.